ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.
Denizin üstünde ala bulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür. Bulut mu olsam, gemi mi yoksa, balık mı olsam, yosun mu yoksa? Ne o, ne o, ne o, deniz olunmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla.
Au-dessus de la mer, le nuage perd. Sur la mer, le bateau d'argent. Dans la mer, le poisson jaune. Au fond de la mer, l'algue bleue. Au bord de la mer, un homme nu, debout, pense. Est-ce que je dois être le nuage ou bien le bateau? Est-ce que je dois être le poisson ou bien l'algue? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il faut être la mer, mon gars. Avec son nuage, son bateau, son poisson et son algue.
Bonjour à vous. Le poème que vous venez d'entendre dans sa langue d'origine, puis dans sa traduction en français, était dit par son auteur, une grande voix de la littérature turque et de la poésie mondiale. J'ai nommé Nazım Hikmet. C'est à lui que j'ai voulu consacrer cette dernière émission de la saison. Cela fait déjà quelque temps que j'avais prévu d'y mettre le nez, et cette fois, ça y est, j'ai ouvert cette anthologie poétique publiée aux éditions Messidor, Temps actuel, en 1982. Et je pense que c'est l'actualité, avec les récentes élections en Turquie, qui m'y a poussé. Je me suis dit que si Nazım Hikmet revenait parmi nous aujourd'hui, non seulement il ne serait certainement pas satisfait du résultat de cette élection présidentielle, mais il pourrait sans doute écrire des textes assez semblable à ceux qu'il écrivait de son vivant au fil du XXe siècle. Des textes de combat contre toute forme d'oppression, des textes d'amour aussi, des textes qu'il voulait accessibles à tous et dans lesquels il s'adresse très souvent aux hommes comme à des frères. C'est donc en sa compagnie que je vous propose de cheminer avec moi pour ce 80e numéro de « Ça manque pas de poésie ». Et pour accompagner les mots de Nazım Hikmet, nous entendrons des musiques turques d'hier et d'aujourd'hui. Commençons par une composition issue d'un album intitulé « Tabriz, sous l'aile du derviche ». Les paroles des chants sont celles de personnages appelés « aşık », amoureux en turc, des bardes et des troubadours caucasiens qui font partie intégrante du patrimoine culturel turc. Maksut Grez, compositeur, chanteur et joueur de luth, qu'on appelle saz en Turquie, a repris dans son album ses airs traditionnels en y ajoutant ses compositions personnelles. Il est accompagné de François Sekaldi aux percussions.
Deli gönül feryat etme boşuna ey. Deli gönül feryat etme boşuna. Hal bilmez kişiye kul olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, Hakk'ın divanında var olamazsın. Madat sevdiğim madat. Bir mürşide bağlamazsan özünü, Hakk'ın divanında var olamazsın. Madat sevdiğim madat. Thank you. vefasız güzelden olur mu çare yay? Vefasız güzelden olur mu çare? Yoruldum derdinden öldüm bin kere. Düşme bir zaima göz göre göre. Sen insan olursun kör olamazsın. Hakkası bülbüller etmez dalında. Hakkası bülbüller etmez dalında. Dumanlar elenir sevda dağında. Aşk ateşi yanar oldu barında. Yanmış yüreğime kar olamazsın. Medet sevdiğim medet. Aşk ateşi yanar oldu bağrımda. Yanmış yüreğim mekar olamazsın. Madat sevdiğim madat.
Les violettes mauves, les amis affamés et l'enfant aux yeux d'or. Dis donc, poète, nous avons deux mots à dire, nous aussi, sur l'amour. Nous en savons quelque chose, nous aussi, de ce truc-là, poussant des cris fous à tue-tête, l'été a filé devant mon nez comme un train jaune au wagon en bois, sentant la sueur, la chair et le tabac. Et dire que moi, je voulais le voir venir comme celle qui m'apporte du lait chaud dans son seau de cuivre rouge. Tant pis, l'été n'est pas venu ainsi, ce n'est pas ainsi que l'été vient, non, pas ainsi, sacré nom d'un chien. Ô toi, ma fille, ma mère, ma femme, ma sœur, ô toi qui as le soleil sur le front, bel enfant aux yeux d'or, mon enfant aux yeux d'or. Poussant des cris fous à tue-tête, l'été m'a filé devant le nez sans que j'aie pu t'apporter un bouquet de violettes mauves. Que veux-tu ? Les amis avaient faim. On a mangé l'argent des violettes. Nazım Hikmet est né à Salonique en 1902, une ville aujourd'hui grecque, mais qui faisait alors partie de l'Empire ottoman. Il est mort à Moscou en 1963. S'il est aujourd'hui reconnu dans son pays comme une figure emblématique de la littérature turque, ça n'a pas été le cas de son vivant, comme nous allons le découvrir au fil de cette émission. Le poète Philippe Soupeau, cofondateur du mouvement surréaliste, contemporain et ami de Nazım Hikmet, a écrit la préface de l'anthologie parue en 1982. Une préface dans laquelle il dit ceci. Nazım Hikmet voulait écrire d'abord pour ses frères analphabètes de Turquie. Mais malgré lui, peut-être, il atteignit tous ses contemporains de bonne foi. On peut écrire de lui qu'il fut un poète universel. Et cet éloge, nous devons le rappeler, parce que peu de poètes ont atteint une audience mondiale. Et qu'il signifie que, malgré la très haute qualité de sa poésie, Nazım Hikmet n'a jamais voulu s'isoler dans une tour d'ivoire. Il a voulu et il a réussi à se faire comprendre de tous ceux qu'il appelait ses frères. Effectivement, les mots « frère » et « ami » reviennent très souvent dans les poèmes de Nazım Hikmet, comme vous allez vous en rendre compte. Quant au style de sa poésie, on peut dire qu'il tourne le dos à la poésie turque traditionnelle, en cassant sa métrique et en étant le premier à écrire en vers libre, bien qu'il conserve la rime, ce qui évidemment ne sera pas tellement sensible à vos oreilles dans la traduction en français. Autre fait notoire, c'est à travers lui que la poésie turque, longtemps empreinte de mysticisme et utilisant une langue savante, va se rattacher à la conception poétique occidentale et employer la langue du peuple. Donc, il y a chez lui une volonté de rupture, mais en même temps, une continuité avec les racines de la culture turque. « Voici un poème écrit à l'occasion d'une grève de tramway à Istanbul en 1929. La ville qui a perdu sa voix. Nombre de tours, zéro. La ville s'est tue. De la ville s'est cadenassée la mâchoire asphalte-béton. De l'an 1900 au mois de... La rue vide, court d'un bout à l'autre. La rue est vide, complètement vide, comme ma poche. Tarie, l'eau ne coule plus. Pas un ronronnement de moteur, ni une roue qui tourne. Le vent traîne sur l'asphalte le nom de Monsieur Ford. L'affiche en couleur d'un mur détaché tourbillonne sur la chaussée. Trois hommes debout. Le premier a sous le bras un violon cassé. Un haut de forme et un frac par le second est porté. Le troisième est nu, comme un singe velu. La rue, en sifflant un air, grattant ta nuque, passe d'un trottoir à l'autre. Pas de danger d'être écrasé, pas un ronronnement de moteur, ni une roue qui tourne. Le vent fronce de plus en plus ses sourcils noirs. Les coins des rues sont coupés par des coups de sifflet. Trois hommes debout, chantent une chanson de Soulard, frappent des pieds. Au milieu de la rue, ne restez pas à crier, ne frappez pas les pieds, c'est sans effet. L'asphalte est et restera muet. C'est sans effet. La ville, qui a perdu sa voix, ne parlera jamais. Si des liens de cuir ne caressent leurs mains verrouillées dans leurs poches. Trois hommes debout. Le premier a sous le bras un violon cassé, un haut de forme et un frac par le second est porté. Le troisième est nu comme un singe velu. Trois hommes se perdent dans la nuit en se balançant. Adieu. Restez en paix, mes amis, restez en paix. Je m'en vais avec vous dans l'âme et avec mon combat dans la tête. Restez en paix, amis à moi, restez en paix. Je ne veux pas vous voir sur la plage, rangés comme des oiseaux de cartes postales. Je ne veux pas vous voir avec des mouchoirs. Non, pas de ça. Je me vois de tout mon long dans les yeux de mes amis. Oh, mes amis, mes frères de combat, mes compagnons de travail, adieu, sans un mot. Les nuits pousseront le verrou de la porte, les années tisseront leur toile sur la fenêtre, et moi, je chanterai comme un chant de combat mon chant de prison. Nous nous reverrons, mes amis, nous nous reverrons. Nous sourirons ensemble au soleil, nous nous battrons côte à côte. Oh, mes amis, mes frères de combat, mes compagnons de travail, adieu. Ce dernier texte, écrit en 1931, correspond au début des privations de liberté dont Hikmet va être victime tout au long de sa vie. En 1920, il soutient le mouvement indépendantiste de Mustafa Kemal, qui prendra le nom d'Atatürk en devenant président de la République de Turquie en 1924. Puis, Nazım Hikmet va entrer au parti communiste turc clandestin, ce qui lui vaudra d'être plusieurs fois arrêté et condamné à des peines de prison. Durant les années 20, Hikmet se rend plusieurs fois en URSS. Il est alors fasciné par les idéaux révolutionnaires soviétiques et par le foisonnement culturel qui accompagne la révolution russe. Entre 1928 et 1938, il publie une dizaine de recueils et ses poèmes témoignent de son engagement. Il en va ainsi des deux textes que vous allez entendre, datant du début des années 30. Le premier s'appelle « L'homme qui marche » et le second « Microcosme » est un fragment d'un poème épique qu'il a écrit sur un révolutionnaire hindou nommé Benerjee. L'homme qui marche, le front haut, son foulard rouge au vent, il marche. Il avance pas à pas, il avance lourdement, il marche. Le vent comme la mer mugit, la mer siffle comme le vent. De chaque côté, les lumières coulent comme des étoiles tombées. Des voix lui viennent des rives les plus lointaines du cœur. Où vas-tu, mon fils? Où vas-tu? Retourne, ô mon aimé, retourne, ô mon frère. Retourne, l'homme de ma demeure. Reviens en arrière. Il avance pas à pas. Il avance lourdement. Il marche. Il marche, lui, en sifflant un chant de mort et de colère. Il marche, lui, en élevant, en gonflant sa poitrine ainsi qu'un vaisseau. Il avance pas à pas. Il avance lourdement. Il marche. Qui sait ? Peut-être qu'il n'enfouira plus, une fois encore, ses doigts dans les cheveux blonds de sa sœur qui coud son ouvrage sur les genoux. Et peut-être qu'une fois encore, se couchant à leurs pieds, il ne regardera plus, comme s'il regardait une route verte allant au soleil, les charmes. Il marche, lui. Il marche avec de grandes, de larges enjambées. Il arpente les routes. Comme deux lourdes ancres, il balance ses bras. Sa poitrine velue se tend comme un bouclier. Il n'entend plus, coulant goutte à goutte sur son cœur, comme un suc de girofle, les paroles de ses amis, malades et infirmes, qui s'assoient tous chaque soir à la même table de bois. Les yeux sortis dans sa figure, comme deux lames nues, il marche sur l'ennemi. Il avance pas à pas, il avance lourdement, il marche. Microcosme. Quand cette étoile dont la lumière tombe dans mon œil comme une goutte d'or, quand cette étoile pour la première fois perça les ténèbres du vide, il n'y avait pas un seul hôtel sur la terre. Les étoiles étaient vieilles, la terre n'était qu'un gosse. Elles sont loin de nous, les étoiles, mais loin, très très loin. Parmi elles, notre terre n'est qu'un point, un tout petit point. Et l'Asie n'est qu'un cinquième de notre terre. Dans l'Asie, les Indes ne sont qu'un pays. Dans les Indes, Calcutta n'est qu'une ville. Benerji n'est qu'un homme dans Calcutta. Et voici ce que j'ai à vous dire, moi. Aux Indes, dans la ville de Calcutta, on a barré le chemin à un homme. On a mis aux chaînes un homme qui marchait. Voilà pourquoi je ne daigne pas, moi, lever la tête aux espaces illuminés. Les étoiles sont loin, dites-vous, et notre terre toute petite. Qu'elle le soit donc, je m'en moque. Sachez que je trouve plus étonnant, plus imposant, plus mystérieux et plus grand un homme qu'on empêche de marcher, un homme qu'on enchaîne. Le morceau que vous venez d'entendre est tiré d'un album intitulé « Parfums ottomans » avec l'ensemble Al-Kindi, qui joue la musique de cour arabo-turque du XVIIe siècle. Cet ensemble, réuni à l'occasion d'une création pour le Théâtre de la Ville de Paris en 2006, est composé de 10 musiciens de différents horizons, turcs, syriens, égyptiens, azéris, l'objectif étant de fusionner les traditions propres à chacun de ces pays afin de réveiller l'esprit de dialogue et d'échange qui régnait dans les ensembles de cour du XVIIe siècle. Nazım Hikmet, lui aussi, a une vision cosmopolite du monde, en prônant dans ses poèmes la résistance à l'oppression, que ce soit de manière générale, comme on vient de le voir dans « L'homme qui marche », ou en évoquant les attitudes héroïques de personnages des siècles passés, ou encore en faisant l'éloge de la lutte victorieuse menée par Mustafa Kemal. Mais son soutien, en tant qu'écrivain, ne se limite pas à son pays, puisqu'il écrit aussi des poèmes en l'honneur des révolutionnaires russes de 1917, puis plus tard en l'honneur des antifranquistes de la guerre d'Espagne. Ainsi qu'en témoigne ce très beau texte qui me fait un peu penser à celui d'Aragon quelques années plus tard en l'honneur des résistants français au nazisme, « La rose et le réséda ». C'est d'ailleurs Louis Aragon qui présentera Hikmet au lecteur français en 1934 et l'accueillera en 1948 dans la revue Europe et aux Lettres françaises. Il neige dans la nuit. Ni entendre une voix de l'au-delà, ni mettre dans le tissu des lignes la chose ineffable, ni chercher la rime comme un orfèvre, ni profonde rhétorique. Ce soir, Dieu soit loué, je suis au-dessus, bien au-dessus de tout cela. Ce soir, je suis un chanteur des rues. Ma voix est nue, sans artifice, une voix qui chante pour toi, une chanson que tu n'entendras pas. Il neige dans la nuit. Tu es à la porte de Madrid. Tu as toute une armée de villes devant toi, une armée qui tue tout ce que nous avons de plus beau, l'espoir, la nostalgie, la liberté et les enfants. Il neige dans la nuit. Ce soir, tu as peut-être froid à tes pieds mouillés. Il neige. Et pendant que je pense à toi, en cet instant même, une balle peut te trouer, là. Désormais, c'est fini. Ni neige, ni vent, ni jour, ni nuit. Il neige. Toi qui dis « No pasaran » à la porte de Madrid, tu existais sans doute avant. Qui étais-tu? D'où venais-tu? Que faisais-tu? Tu es peut-être venu des mines d'Asturie. Un bandeau sanglant cache peut-être sur ton front une blessure prise dans le nord. C'est peut-être de ton fusil qu'est partie la dernière balle quand les Junkers brûlaient Bilbao. Ou tu étais peut-être ouvrier agricole dans la ferme d'un certain comte Fernando Valestero de Cardoban. Ou bien tu avais une boutique à la Puerta del Sol. Tu vendais des fruits aux vives couleurs espagnoles. Tu n'avais peut-être aucun métier. Tu avais une belle voix, peut-être. Tu étais peut-être étudiant en philosophie ou en droit, et tes livres sont restés sous les roues des tanks italiens. Dans le quartier de l'université, tu ne crois peut-être pas au ciel, ou tu portes sur la poitrine une petite croix attachée à une ficelle. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Je n'ai pas vu et ne verrai jamais ton visage. Qui sait? Il rappelle peut-être les visages de ceux qui ont battu Kolchak en Sibérie. Ou quelques traits de ton visage ressemblent un peu à celui qui gît sur le champ de bataille de Doum Loupinard. Possible qu'il ressemble un peu à Robespierre. Tu n'as pas entendu mon nom, tu ne l'entendras jamais. Il y a entre nous des mers, des montagnes, ma maudite impuissance et le comité de non-intervention. Je ne peux ni venir à tes côtés, ni t'envoyer une caisse de cartouches, des œufs frais ou une paire de chaussettes en laine. Et pourtant, je sais que tes pieds plantés à la porte de Madrid ont froid comme deux enfants nus. Et je sais aussi que tout ce qu'il y a de grand et de beau, tout ce que l'homme trouvera de grand et de beau, c'est-à-dire la terrible nostalgie de mon âme, rit dans les yeux de ma sentinelle à la porte de Madrid. Et que hier, demain et ce soir, je ne peux rien faire d'autre que de l'aimer. de la mort. Entrez donc, mes amis. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus. Vous m'apportez la joie. Je sais, vous êtes entrés par la fenêtre dans ma cellule pendant que je dormais. Vous n'avez renversé ni la bouteille au fin col, ni la boîte rouge de médicaments. Les visages, aux lueurs d'étoiles, vous êtes là, main dans la main, à mon chevet. Comme c'est drôle, je vous croyais mort. Et comme je ne crois ni en Dieu ni à l'au-delà, je regrettais de n'avoir pu vous offrir encore une pincée de tabac. Comme c'est drôle, je vous croyais mort. Vous êtes venus par la fenêtre dans ma cellule. Entrez donc, mes amis, asseyez-vous, soyez les bienvenus, vous m'apportez la joie. Hachim, fils d'Osman, pourquoi me regardez-vous d'un air étrange ? Hachim, fils d'Osman, comme c'est drôle. N'étiez-vous pas mort, mon frère, à Istanbul, au port, chargeant du charbon sur un cargo étranger ? Vous étiez tombé avec le seau au fond de la cale. Le treuil du cargo vous a sorti de là et avant d'aller vous reposer pour de bon, votre sang avait, tout rouge, lavé votre tête noire. Qui sait comme vous aviez souffert ? Ne restez pas debout. Asseyez-vous. Je vous croyais mort. Vous êtes entré par la fenêtre dans ma cellule. Vos visages aux lueurs d'étoiles, vous êtes les bienvenus, vous m'apportez la joie. Yacoub du village de Kayalar, salut cher vieux, n'étiez-vous donc pas mort, vous aussi ? N'étiez-vous pas allé au cimetière sans arbres, laissant aux enfants la malaria et la faim ? Il faisait terriblement chaud ce jour-là. Alors, n'étiez-vous donc pas mort ? Et vous, Ahmed Djemil l'écrivain, j'ai vu de mes propres yeux votre cercueil descendre en terre, et même je crois me rappeler que votre cercueil était un peu plus court que votre taille. Laissez cela, Ahmed Djemil. Je vois que vous l'avez toujours, votre vieille habitude. C'est une bouteille de médicaments, pas de raki. Vous en buviez tellement, pour pouvoir ramasser 50 piastres par jour et pour pouvoir oublier le monde dans votre solitude. Je vous croyais mort, mes amis. Vous êtes à mon chevet, la main dans la main. Asseyez-vous, mes amis, asseyez-vous. Vous êtes les bienvenus, vous m'apportez la joie. La mort est juste, dit un poète persan. Elle est d'une égale majesté en frappant le pauvre et le chat. Hachim, pourquoi vous étonnez-vous ? N'avez-vous jamais entendu parler d'un chat ? Mort dans la cale d'un bateau avec un seau. La mort est juste, dit un poète persan. Yacoub, que vous êtes beau quand vous riez, cher vieux. Jamais je ne vous ai vu rire ainsi, vivant. Mais attendez que je finisse. La mort est juste, dit un poète persan. Laissez cette bouteille, Ahmed Djemil. Vous vous fâchez en vain, je sais ce que vous voulez dire. Pour que la mort soit juste, il faut que la vie soit juste. Le poète persan. Pourquoi, mes amis, pourquoi me laissez-vous ainsi tout seul ? Où allez-vous ? Avant ce dernier poème, vous avez entendu un second morceau interprété par l'ensemble Al-Kindi. Quant aux deux textes écrits, vous l'aurez compris en prison, ils seront suivis de beaucoup d'autres, puisque entre 1938 et 1950, Nazım Hikmet va passer 12 années consécutives dans la prison de Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie. 12 années au cours desquelles il va écrire la majorité des poèmes d'un recueil qui s'appellera « Paysages humains ». Et il va aussi peindre et alphabétiser ses co-détenus. Alors, je vous disais tout de suite deux textes, mais je me rends compte que j'ai oublié de vous en lire un, ce que je vais réparer tout de suite. Alors, ce texte s'appelle « Dimanche ». C'est dimanche aujourd'hui. Pour la première fois aujourd'hui, ils m'ont laissé sortir au soleil. Et moi, pour la première fois dans ma vie, j'ai regardé le ciel sans bouger, m'étonnant qu'il soit si loin de moi, qu'il soit si bleu, qu'il soit si vaste. Je me suis assis par terre, plein de respect, et j'ai collé mon dos contre le mur blanc. Il n'est pas question, en cet instant, de me jeter dans les vagues. Pas de combat en cet instant, pas de liberté et pas de femme. Terre, soleil et moi. Je suis un homme heureux. Alors, parmi un ensemble de lettres adressées à sa femme et de poèmes écrits entre 1942 et 1946, j'ai choisi un certain nombre de textes qui rendent compte de l'état d'esprit de Nazım Hikmet au cours de cette épreuve. Les voici sur un morceau intitulé « Le long frémissement de l'aube », toujours interprété par l'ensemble Alkindi, comme le seront d'ailleurs les plages musicales suivantes. Je te dirai quelque chose d'une importance capitale. L'homme change de nature quand il change de lieu. J'aime effroyablement ici le sommeil qui vient comme une main amie ouvrir les verrous de ma porte et renverser les murs qui m'enferment. Comme dans la comparaison banale, je me laisse aller dans le sommeil, comme la lumière glisse dans les eaux tranquilles. Mes rêves sont magnifiques. Je suis toujours dehors. Le monde y est clair, le monde y est beau. Pas une fois encore je n'y fus prisonnier. Pas une fois encore dans mes rêves, je ne suis tombé de la montagne dans l'abîme. Tes rêves sont terribles, diras-tu. Non, ma femme, j'ai assez de courage pour faire au rêve sa part de rêve. Ça y est, l'automne est peut-être fini aujourd'hui. Les oies sauvages ont passé tout à l'heure à tire d'aile. Elles vont au lac d'Iznik sans doute. Dans l'air, quelque chose de frais, quelque chose qui sent la fumée. Dans l'air, c'est l'odeur de la neige. Être dehors maintenant, dehors, à cheval, au galop, vers les montagnes. Tu ne sais pas monter à cheval, me diras-tu. Ne plaisante pas et ne sois pas jalouse. Je me suis fait un nouvel amour en prison. J'aime autant, ou presque autant que toi, la nature. Et vous êtes tous les deux loin. On nous a eus. Nous sommes en prison. Moi, dans les murs, toi, dehors. Mais qu'importe ce qui nous arrive. Ce qui est pire, c'est de porter en soi la prison. Conscient ou inconscient, tant d'hommes en sont là, tant d'hommes honnêtes, laborieux et bons, qu'on pourrait aimer comme je t'aime. Que fait-elle maintenant ? Maintenant, en cet instant, chez elle, dans la rue, au travail ? Allongée, debout, peut-être lève-t-elle le bras. Oh, ma rose, comme ce mouvement découvre soudain ton poignet blanc et rond. Que fait-elle maintenant ? Maintenant, en cet instant, un petit chat sur les genoux, elle le caresse ? Ou peut-être marche-t-elle ? Voilà son pied qui s'avance. Oh, tes pieds, tes chers pieds, pieds qui marchent dans mon âme, pieds qui illuminent mes jours noirs. À qui pense-t-elle ? À moi ? Ou, que sais-je, aux haricots qui ne veulent pas cuire ? Ou peut-être se demande-t-elle pourquoi tant d'hommes sur la terre sont si malheureux ? Que fait-elle ? Que fait-elle maintenant, en cet instant ? La plus belle des mers est celle où l'on n'est pas encore allé. Le plus beau des enfants n'a pas encore grandi. Les plus beaux jours, les plus beaux de nos jours, on ne les a pas encore vécus. Et ce que moi je voudrais te dire de plus beau, je ne l'ai pas encore dit. La plus drôle des créatures. Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion dans une nuit d'épouvante. Comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau dans ses menues inquiétudes. Comme la moule, mon frère, tu es comme la moule enfermée et tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas. Tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère. Quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau et tu vas à l'abattoir en courant, presque fier. Tu es la plus drôle des créatures, en somme. Plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, pressés comme la grappe pour donner notre vin, irais-je jusqu'à dire que c'est de ta faute ? Non. Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Ce pays est le nôtre. Ce pays qui ressemble à la tête d'une jument venue au galop de l'Asie lointaine pour se tremper dans la Méditerranée. Ce pays est le nôtre. Poignets en sang, dents serrées, pieds nus, terre qui ressemble à un tapis en soie, cet enfer, ce paradis est le nôtre. Que les portes se ferment qui sont celles des autres. Qu'elle se ferme pour toujours, que les hommes cessent d'être les esclaves des hommes. Cet appel est le nôtre. Vivre comme un arbre, seul et libre, vivre en frère comme les arbres d'une forêt, ce rêve est le nôtre. Voilà. Je suis dans la clarté qui s'avance. Mes mains sont toutes pleines de désirs. Le monde est beau. Mes yeux ne se lassent pas de voir les arbres si pleins d'espoir, les arbres si verts. Un sentier ensoleillé s'en va à travers les mûriers. Je suis à la fenêtre de l'infirmerie. Je ne sens pas l'odeur des médicaments. Les œillets ont dû s'ouvrir quelque part. Être captif, là n'est pas la question. Il s'agit de ne pas se rendre. Voilà. Sur la vie. La vie n'est pas une plaisanterie. Tu la prendras au sérieux, comme le fait un écureuil, par exemple, sans rien attendre du dehors et d'au-delà. Tu n'auras rien d'autre à faire que de vivre. La vie n'est pas une plaisanterie, tu la prendras au sérieux, mais au sérieux à tel point qu'adossé au mur, par exemple, les mains liées, ou dans un laboratoire, en chemise blanche avec de grandes lunettes, tu mourras pour que vivent les hommes dont tu n'auras même pas vu le visage, et tu mourras tout en sachant que rien n'est plus beau, que rien n'est plus vrai que la vie. Tu la prendras au sérieux, mais au sérieux à tel point qu'à 70 ans, par exemple, tu planteras des oliviers, non pas pour qu'ils restent à tes enfants, mais parce que tu ne croiras pas à la mort, tout en la redoutant, mais parce que la vie pèsera plus lourd dans la balance. Le réveil. Tu t'es réveillé. Où es-tu ? Dans ta maison. Tu n'as pas encore l'habitude d'être dans ta maison à ton réveil. Voilà l'une des turpitudes d'être resté 13 ans dans la prison. Qui est couché auprès de toi ? Ce n'est pas la solitude. Ta femme, elle dort comme un ange. Ça lui sied à la belle d'être enceinte. Quelle heure est-il ? 8 heures. Cela signifie que vous, jusqu'à ce soir, vous êtes en sûreté. Parce que, selon la coutume, la police, tant qu'il fait jour, ne perquisitionne pas. Fondée en 1950 et présidée par Tristan Tzara, le Comité pour la libération de Nazim Hikmet déclenche une campagne pour le faire connaître qui entraîne de nombreuses manifestations en sa faveur dans le monde entier. Grâce à ce soutien et à celui des démocrates de son pays, il est libéré en 1950. Un an plus tard, en 1951, il prend le chemin de l'exil, il est déchu de sa nationalité turque et sa poésie, nourrie de confiance en l'homme, est très vite reconnu internationalement. Tristan Tzara dira de lui « La poésie de Nazim appartient au domaine culturel de l'homme d'aujourd'hui et par l'ampleur de son authenticité historique, elle prend la valeur d'une vérité permanente. » Quand bien même il dira que l'exil est un dur métier et qu'il est pire que la mort, Hikmet, en parcourant désormais les pays de l'Est, va s'attacher davantage aux hommes qu'aux paysages et tenter de discerner ce qui les relie. Et c'est cette solidarité de nature révolutionnaire qui va être pour lui une autre patrie. C'est ainsi que, tout en pensant avec nostalgie à sa Turquie natale, il se sentira un peu chez lui, à Moscou, comme à Varsovie, et y jouira d'ailleurs d'une célébrité plus effective que dans son propre pays. Dans un texte où il lui rend hommage à la fin de l'anthologie, Tristan Tzara note que la poésie de Nazim Hikmet se situe dans la lignée de celle de Mayakovsky et de Garcia Lorca par le fait qu'il parvient, comme eux, à exalter le sentiment révolutionnaire en incorporant les aspirations du peuple dans une forme accessible à tous. Voici d'ailleurs ce que Hikmet lui-même dit de son lien à la politique lors d'une interview donnée en France en 1958. En tant qu'écrivain, en tant que membre du parti, la relation qui s'établit entre lui et moi n'est point passive, mais active. Il y a échange. Le parti m'apporte quelque chose et à mon tour, je dois lui donner quelque chose. Je m'inspire des mots d'ordre du parti afin de les populariser, mais en m'efforçant de les porter à un niveau véritablement artistique. D'autre part, j'essaye de faire en sorte que le parti apprenne et comprenne par mes œuvres l'âme de mon peuple. Nazim Hikmet restera communiste jusqu'à la fin de sa vie et, en dépit de sa réprobation de la bureaucratie stalinienne, il ne reniera jamais ses engagements de jeunesse. Ainsi, contrairement à Mayakovsky, qui réalisera amèrement qu'il était devenu un poète d'appareil et critiquera la dérive autoritaire du parti, Hikmet croira jusqu'au bout à la révolution, sans doute parce qu'il était difficile, à cette époque, d'abandonner le grand espoir que des intellectuels comme lui avaient placé dans le bolchevisme, ou peut-être aussi parce que son temps passé en prison l'avait un peu éloigné des réalités. Appartenant au recueil « C'est un dur métier que l'exil », voici deux poèmes écrits à Prague en 1956. Les heures de Prague. L'aube. Baroque. Dans Prague, tandis que blanchit l'aube, la neige tombe, liquide, d'un gris de plomb. Dans Prague, doucement, s'éclaire le baroque, tourmenté, lointain. Il tremble dans ses dorures une tristesse noircie. Sur le pont Charles, les statues sont les oiseaux venus d'une planète morte. Dans Prague, le premier tramway a quitté le dépôt. Les vitres sont éclairées, jaunes et chaudes. Mais je sais qu'il fait à l'intérieur un froid glacial. La laine du premier voyageur ne l'a point encore réchauffée. Dans Prague, Pépic boit son café au lait dans la cuisine blanche. La table de bois est toute propre. Dans Prague, tandis que blanchit l'aube, la neige tombe, liquide, d'un gris de plomb. Dans Prague passe une voiture, une charrette que traîne un seul cheval devant le cimetière juif. La charrette est chargée de la nostalgie d'une autre cité, et le charretier, c'est moi. Dans Prague, doucement, s'éclaire le baroque, tourmenté, lointain. Il tremble dans ses dorures une tristesse noircie. Dans Prague, au cimetière juif, la mort est silencieuse et muette. Ô mon amour, ô mon amour, l'exil est pire que la mort. La nuit, la maison du docteur Faust. Très tard dans la nuit, au pied des tours, sous les arcades, j'ai erré dans Prague. Le ciel dans l'ombre est un alambic qui distille l'or, une cornue d'alchimiste dont la flamme est toute bleue. Je suis descendue vers la place Charles. Au coin, tout près de la clinique, on trouve dans un jardin la maison du docteur Faust. Je frappe à la porte. Le docteur n'est pas chez lui, bien sûr. Voici deux siècles, par un trou dans la toiture, par une nuit pareille à celle-ci, le diable l'a emporté. Je frappe à la porte. En cette maison, moi aussi je vais passer contrat avec le diable. Je le signerai moi aussi de mon sang. De lui je n'attends ni or, ni savoir, ni jeunesse. La nostalgie m'a trop meurtri, c'en est assez. Mais qu'il m'emmène à Istanbul pour une heure. Je frappe encore. La porte demeure obstinément close. Pourquoi ? Mon désir est-il irréalisable, Méphisto ? Ou bien alors, mon âme en lambeaux ne vaut-elle pas la peine qu'on l'achète ? La lune se lève sur Prague, jaune citron. Je suis là devant la maison du docteur Faust et je frappe à la porte au milieu de la nuit, à la porte qui ne saurait s'ouvrir. Malgré la grande nuit. Minuit. Le dernier autobus. Le contrôleur a déchiré le ticket. Ce qui m'attend à la maison, ce ne sont pas de mauvaises nouvelles ni des rasades de raki. Ce qui m'attend, c'est la séparation. Je vais vers la séparation, sans peur et sans tristesse. La grande nuit s'est approchée tout près de moi et déjà, je puis contempler le monde calme et sans agitation. Maintenant, la lâcheté de l'ami ne me surprend plus quand il m'enfonce le couteau en me serrant la main. Maintenant, la provocation de l'ennemi ne me touche plus. Je suis passée par des forêts d'idoles en y abattant ma hache, comme elle s'écroulait facilement. J'ai jaugé toutes mes croyances et par bonheur, plusieurs n'étaient point des alliages. Jamais je ne fus si étincelant et jamais plus libre. La grande nuit s'est approchée tout près de moi et déjà je puis contempler le monde, calme et sans agitation. Je relève la tête au-dessus de l'ouvrage. Tout à coup m'apparaît un mot, un parfum, un geste du passé. Le mot est bon, merveilleux le parfum. Et c'est ma bien-aimée qui me fait signe de la main. Déjà l'attraction du souvenir ne m'attriste plus. Je ne me plains pas des souvenirs, je ne me plains de rien, même de mon cœur qui me lance comme une énorme dent. La grande nuit s'est approchée tout près de moi et déjà je puis contempler le monde, calme et sans agitation. Ni l'orgueil du ministre, ni l'obséquiosité de son secrétaire ne me touchent désormais. Je jette par-dessus ma tête la lumière dans des coupes. Je puis regarder le soleil sans cligner des yeux. C'est bien regrettable peut-être, mais le plus beau des mensonges ne peut plus me faire illusion. Déjà, les mots ne me saoulent pas, ni les mots des autres, ni les miens. Et voilà ma bien-aimée. La mort s'est approchée tout près de moi. Le monde est plus beau que jamais. Le monde était mon linge, mon vêtement. Et voilà que je me dévais. J'étais la vitre d'un train. Maintenant, je suis une gare. J'étais le cœur de la maison. Maintenant, je suis la porte sans clé. Plus que jamais, j'aime pourtant les hôtes. Plus que jamais, la chaleur est jaune. Et la neige est propre plus que jamais. Ce poème très émouvant par la sérénité que Nazim Hikmet affiche devant la mort est paradoxalement lié à ceux que vous avez entendus dans lesquels il exaltait la vie. Suite à ses années de prison, Nazim a des problèmes cardiaques, il souffre régulièrement d'angine de poitrine et on a l'impression, avec ce texte-là, que le fait d'avoir vu la mort de près lui a permis non seulement d'en apprivoiser l'idée, mais d'être encore plus sensible à la beauté du monde. Entre nostalgie et espoir, voici quatre poèmes issus du recueil « C'est un dur métier que l'exil ». Hôtel Bord. Impossible de dormir la nuit, ici, à Varna. Impossible de dormir, à cause de ces étoiles trop nombreuses, trop proches, trop brillantes. À cause du grondement sur la grève des vagues mortes. Leur grondement et leurs nacres et leurs galets et leurs algues salées. À cause du bruit d'un moteur sur la mer, tel un cœur qui bat. À cause des fantômes venus d'Istanbul. Surgit du Bosphore, envahissant ma chambre. Les yeux verts de l'un, les menottes au poignet de l'autre. Dans les mains du troisième, un mouchoir fleurant la lavande. Impossible de dormir, la nuit, ici, à Varna. Oh, mon amour, à Varna, à l'hôtel Bord. La table. Varna m'a rendu fou. Voilà que ma raison s'égare. Tomates, poivrons verts, turbo frits. À la radio, ohé les gars, une chanson de la mer Noire. Et dans un verre, du raki. Lait de lion, anis. Oh, et l'odeur de l'anis. Et ma langue parlée amicalement, fraternellement. Ah, ce que je suis bien, bon sang, ce que je suis bien. Varna m'a rendu fou. Voilà que ma raison s'égare. Le noyer. Je suis tout imprégné de mer et sur ma tête écument les nuées. dans le jardin de Gulyané. Voilà que je suis un noyer. Un vieux noyer tout émondé, le corps couvert de cicatrices. Nul ne le sait, ni toi, ni même la police. Dans le jardin de Gulyané, voilà que je suis un noyer. Et tout mon feuillage frémit, comme au fond de l'eau le poisson. Et comme des mouchoirs de soie, mes feuilles froissent leurs frissons. Arrache-les, ô mon amour, pour essuyer tes pleurs. Or, mes feuilles, ce sont mes mains. J'ai justement 100 000 mains. De 100 000 mains, je te touche et je touche Istanbul. Mes feuilles, ce sont mes yeux. Et je regarde, émerveillée, de 100 000 yeux, je te contemple et je contemple Istanbul. Et mes feuilles battent et battent comme 100 000 cœurs. Dans le jardin de Gulyané, voilà que je suis un noyer. Nul ne le sait, ni toi, ni même la police. De la vie. À supposer qu'on soit malade, si gravement qu'il faille user du bistouri. Cela signifie que peut-être on ne pourra jamais se relever du billard blanc. Alors, bien qu'on éprouve une grande tristesse de s'en aller un peu trop tôt, l'on ira tout de même en écoutant une anecdote. L'on rira tout de même en écoutant une anecdote. L'on regardera par la fenêtre pour voir si le temps est à la pluie. Où l'on attendra l'impatience au cœur, les nouvelles de dernière heure. À supposer qu'on soit au front pour une cause qui vaut qu'on se batte, là-bas, au premier jour et dès le premier choc, il est possible que tu tombes, nez à terre, et que tu meurs. Tu sais cela. Ta rage en est amère. Mais tout de même, tu seras anxieux et passionné. Tu voudrais connaître l'issue de cette guerre qui pourrait durer des années. À supposer que l'on soit en prison, que l'on frôle la cinquantaine et que 18 années devront passer encore avant que les verrous ne soient tirés. Pourtant, quand même, tu vivras avec le monde du dehors, avec ses hommes, ses animaux, ses luttes et ses vents, avec le monde d'au-delà les murs. Ainsi, où que tu sois, quelles que soient les circonstances, tu dois vivre comme si jamais tu ne devais mourir. Nazim Hikmet découvre Paris au printemps de 1958 et les poèmes qu'il va écrire entre 58 et 60 sont réunis dans un recueil qui s'appelle « Paris, ma rose ». En voici un. Devinette parisienne. Quelle ville ressemble au vin ? Paris. Tu bois le premier verre, il est âpre. Au second, il te monte la tête, il te monte à la tête. Et au troisième, il te cloue sur la table. Garçon, encore une bouteille. Et depuis lors, où que tu sois, où que tu ailles, tu es ivrogne de Paris, mon vieux. Quelle ville demeure belle sous la pluie interminable ? Paris. Fils de Hikmet, dans quelle ville voudrais-tu mourir ? À Istanbul. À Moscou et à Paris. À quel moment trouve-t-on laid Paris ? Quand on met à sac les imprimeries et qu'on brûle les livres. Quel vêtement sied le moins à Paris ? Les quarts noirs aux vitres grillagées. Dans quelle ville as-tu mangé le pain le plus blanc ? À Paris. Surtout les croissants. Tu te croirais à Istanbul chez un boulanger de Chezadeh. Qu'as-tu aimé le plus fort à Paris ? C'est Paris. À qui as-tu porté des fleurs, mon camarade ? Au mur des fédérés. À une belle, fine comme un roseau. Lesquels parmi les tiens as-tu rencontré à Paris ? Namik Kemal, Zia Pacha, Mustapha Soufi. Et puis, la jeunesse de ma mère. Elle fait de la peinture, elle parle français. Elle est la plus belle du monde. Et puis, j'ai rencontré aussi les 17 ans de Mimi. Alors, à quoi Paris ressemble-t-il ? Au peuple de Paris. Est-ce que tu crois en Paris, fils d'Adam ? Je crois en Paris. Nazim Hikmet meurt d'une crise cardiaque à Moscou le 3 juin 1963. Il est enterré au cimetière Novodevitchi. Ses œuvres, interdites jusqu'en 1964, sont aujourd'hui disponibles en Turquie et la nationalité turque lui a été rendue à titre posthume le 5 janvier 2009. L'un de ses derniers poèmes a pour titre « Autobiographie » et résume parfaitement, avec une certaine dose d'humour, une vie romanesque tant du point de vue politique que personnel. Je suis née en 1902. Je ne suis jamais revenue dans ma ville natale. Je n'aime pas les retours. À l'âge de 3 ans, à Alep, je fis profession de petit-fils de Pacha, à 19 ans d'étudiant à l'université communiste de Moscou, à 49 ans, à Moscou, d'invité du comité central. Et depuis ma 14e année, j'exerce le métier de poète. Il y a des gens qui connaissent les diverses variétés de poissons. Moi, celle des séparations. Il y a des gens qui peuvent citer par cœur le nom des étoiles. Moi, ceux des nostalgies. J'ai été locataire et des prisons et des grands hôtels. J'ai connu la faim et aussi la grève de la faim, et il n'est pas de mets dont j'ignore le goût. Quand j'ai atteint 30 ans, on a voulu me pendre. À ma 48e année, on a voulu me donner le prix mondial de la paix et on me l'a donné. Au cours de ma 36e année, j'ai parcouru en 6 mois 4 mètres carrés de béton. Dans ma 59e année, j'ai volé de Prague à la Havane en 18 heures. Je n'ai pas vu Lénine, mais j'ai monté la garde près de son catafalque en 1924. En 1961, le mausolée que je visite, ce sont ses livres. On s'est efforcé de me détacher de mon parti, ça n'a pas marché. Je n'ai pas été écrasée sous les idoles qui tombent. En 1951, sur une mer, en compagnie d'un camarade, j'ai marché vers la mort. En 1952, le cœur fêlé, j'ai attendu la mort 4 mois allongée sur le dos. J'ai été fou de jalousie des femmes que j'ai aimées. Je n'ai même pas envié Charlot pour un iota. J'ai trompé mes femmes, mais je n'ai jamais médi derrière le dos de mes amis. J'ai bu sans devenir ivrogne. Par bonheur, j'ai toujours gagné mon pain à la sueur de mon front. Si j'ai menti, c'est qu'il m'est arrivé d'avoir honte pour autrui. J'ai menti pour ne pas peiner un autre, mais j'ai aussi menti sans raison. J'ai pris le train, l'avion, l'automobile. La plupart des gens ne peuvent les prendre. Je suis allée à l'opéra. La plupart des gens ne peuvent y aller et en ignorent même le nom. Mais là où vont la plupart des gens, je n'y suis pas allée depuis 1921. À la mosquée, à l'église, à la synagogue, au temple, chez le sorcier. Mais j'ai lu quelquefois dans le marc de café. On m'imprime dans 30 ou 40 langues, mais en Turquie, je suis interdit dans ma propre langue. Je n'ai pas eu de cancer jusqu'à présent. On n'est pas obligé de l'avoir. Je ne serai pas Premier ministre, etc. Et je n'ai aucun penchant pour ce genre d'occupation. Je n'ai pas fait la guerre. Je ne suis pas descendu la nuit dans les abris. Je n'étais pas sur les routes d'exode, sous les avions volant en rase-motte. Mais à l'approche de la soixantaine, je suis tombé amoureux. En bref, camarade, aujourd'hui, à Berlin, crevant de nostalgie comme un chien, je ne puis dire que j'ai vécu comme un homme, mais le temps qu'il me reste à vivre et ce qui pourra m'arriver, qui le sait ? Voilà, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Je vous souhaite un bel été. Et si la chaleur vient à vous accabler au point de vous ôter le courage d'ouvrir un recueil de poésie, vous pourrez toujours réécouter sur le site de Radio B l'une ou l'autre des 10 émissions enregistrées depuis l'automne 2022. Quant à moi, je serai très heureuse de vous retrouver au mois de septembre prochain. À bientôt. Thank you. ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.